Voilà votre Deliveroo.
Ah, là, on est très bien.
Abonnement Deliveroo plus argent avec Amazon Prime. Frais de livraison offerts et avantages soumis à conditions. Voir Deliveroo.fr.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
18h sur Europe 1, les infos, Margot Siffon.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un mort et plusieurs blessés cette nuit lors d'un accident de la route à Nanterre. Le conducteur a pris la fuite avant d'être interpellé. Il s'agit d'un jeune sous protoxyde d'azote. 40 km de course-poursuite cette nuit à Cannes entre un véhicule et des policiers. Elle fait suite à un refus d'obtempérer. Les deux individus qui ont voulu fuir en se jetant dans le Var ont été appréhendés. Un élève surveillant agressé hier par un détenu à Salon de Provence. Gérald Darmanin réagit. Désormais, les personnels de surveillance seront dotés de bombes dites incapacitantes. Effondrement cette nuit de l'étage d'un immeuble parisien. Ça s'est passé lors d'une soirée dans le 11e arrondissement. Une personne en urgence absolue, 14 autres en urgence relative. Un spectacle de Dieudonné interrompu hier soir par la préfecture des Alpes-Maritimes. 200 spectateurs réunis malgré une interdiction préfectorale, une interdiction pour cause de risque de trouble à l'ordre public. Des décisions conséquentes attendues au musée du Louvre, annonce ce dimanche de Rachida Dati qui évoque la direction de l'établissement. Il est en proie depuis plusieurs semaines à un mouvement de grève. Et Rachida Dati qui quittera le gouvernement avant les municipales. Elle brigue la mairie de Paris face notamment aux socialistes Emmanuel Grégoire. Aucune date exacte n'a été communiquée. 49.3, nous ordonnance pour doter la France d'un budget. On ne sait pas, Sébastien Lecornu n'a pas encore tranché. Yael Braun-Pivet dit regretter que l'Assemblée n'aille pas plus loin dans l'examen de ce texte. Le PS, quant à lui, satisfait des victoires obtenues sur le budget. Il s'engage à ne pas censurer le gouvernement, à condition que le financement des mesures ne se fasse pas sur le dos des Français. Nouvelle manifestation cet après-midi à Paris en soutien au peuple iranien. Plusieurs milliers de personnes ont notamment défilé dans l'ouest de la capitale. Parmi elles, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau ou encore Manuel Valls. Et dans le même temps, une attaque contre Ali Khamenei serait une déclaration de guerre mise en garde du président iranien Donald Trump. Il avait avancé qu'il était grand temps de chercher un nouveau dirigeant. Activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne, demande d'Emmanuel Macron en cas de nouveaux droits de douane américains. Les Européens se disent unis face aux menaces de Donald Trump sur le Groenland. Les agriculteurs, plus que jamais en colère après la signature du Mercosur. Grosse manifestation prévue mardi et mercredi à Strasbourg devant le Parlement. C'est là que la ratification du texte aura lieu. L'Aveyron n'est désormais plus concerné par la vigilance pluie, inondation et crue. 4 départements restent en vigilance orange, l'Hérault, l'Aude et la Corse. Les Pyrénées-Orientales se rajoutent à la liste dès demain 6h. Et puis dans la Coupe d'Europe de rugby, un bon élève, l'Union Bordeaux-Bègles qui décroche 20 points sur 20 possibles. Les joueurs de l'UBB ont encore battu les Anglais de Bristol 27 à 15, c'était cet après-midi.
Europe 1.
18h03 sur Europe 1, tout de suite à La Voix est libre avec Nicolas Carreau.
Europe 1, 18h-19h.
La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Attention, écrivain génial, vous allez voir cette semaine avec le romancier Florent Oiseau. Visite de bibliothèque, ensuite nous partirons chez un autre romancier génial, Gilles Marchand, le soldat désaccordé, vous vous souvenez? Mais d'abord donc, c'est l'invité et lequel? La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. C'est un habitué de La Voix est libre, on le connaît pour Tout ce qui manque, ou Les Magnolias, ou Je vais m'y mettre. Il revient avec Magloire, c'est chez Gallimard, l'histoire d'un type à la dérive. Un classique chez Florent Oiseau, oui mais celui-là, il y va à fond, il vient de se faire virer et il décide de rien faire, puisque c'est mieux que tout le reste. C'est terrible à dire, parce que ça le détruit aussi, mais il a l'alcool heureux. Bonsoir Florent Oiseau.
Bonsoir Nicolas Carreau.
J'aime bien parce que vous avez toujours ce côté Bukowski tranquille, c'est-à-dire que j'imagine qu'on doit toujours vous comparer à Bukowski, ça doit être un peu pénible à force, parce que c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup plus de délicatesse chez vous, il y a de la douceur aussi chez Bukowski, mais chez vous, il y a une réflexion plus large sur ce phénomène du traînard.
C'est en tout cas, c'est lui qui m'a fait entrer dans les livres. Je le lis plus tellement actuellement. Mais à une époque où je pensais que les livres étaient une sorte de sanctuaire dans lequel j'avais pas le droit de citer, et puis ceux qu'on m'imposait à l'école, je comprenais rien à ce qui s'y passait. Lui, en tout cas, m'a permis d'entrer dans un univers que je comprenais. Et le roman que je préfère de Bukowski, c'est Souvenir d'un pas grand-chose, qui est déjà un titre parfait, et qui est probablement son roman le plus tendre et le plus mélancolique. Donc ça me plaît d'être un Bukowski guilleret.
Et qu'est-ce qui vous fascine chez les traînards, qui sont souvent vos héros, en fait, même toujours ?
Mais déjà, j'appartiens à cette caste. Et puis, y a un rapport au temps, un rapport aux injonctions et aux impératifs. Et il y a une forme de liberté qui me paraît presque anachronique dans le monde dans lequel on vit. Et ça me touche énormément.
Et alors, le héros, le narrateur, il a un rapport à l'alcool très ambivalent. Très particulier, très intéressant aussi, parce que c'est pas binaire, c'est pas l'alcoolique contre le type sain. Lui, il le dit, il a l'alcool heureux, il adore ça, il sait que c'est mal, il sait que c'est pas bien, mais il va tous les jours consommer ses bières et son guignolet, parce qu'il boit des alcools un peu doux comme ça, mais il en boit beaucoup, et il aime ça, et il a un rapport comme ça très particulier à l'alcool.
Parce qu'en règle générale, quand on parle de l'alcool et de toutes les addictions, il faut toujours que ça prenne racine dans un drame, dans un décès, dans une dépression. Et je suis pas persuadé qu'il faille à chaque fois un point de départ pour expliquer ce qui fait qu'une consommation est excessive ou qu'une addiction nous prend beaucoup de notre temps. Et lui est très lucide sur ce que l'alcool lui prend, mais il est aussi très lucide sur ce que ça lui apporte. Mmh. Et j'aurais presque plus tendance à me méfier des gens qui n'ont aucune addiction par rapport à ceux qui en ont et qui savent, en tout cas, leur attribuer une place raisonnable, ce qui est en revanche pas tout à fait son cas.
Alors je dis qu'il fait rien, il bosse un peu, c'est-à-dire qu'il fait des petits trafics, il a un contact, on l'appelle le contact d'ailleurs, qui est un type qui connaît un peu les... Bon, on est dans l'Est parisien, mm-hmm. Et puis c'est un type qui connaît un peu tous les petits business possibles à faire. Lui, il fait du trafic de vernis par exemple, on lui donne des caisses de vernis, on sait pas trop d'où ils viennent, du vernis pour les ongles, et puis il les revend à des détaillants, comme ça...
Je crois que
ça sent le vécu en fait, c'était ça.
Ouais, parce que pour moi le lieu le plus romanesque qui existe, j'ai longtemps pensé que c'était l'aire d'autoroute, et en fait il n'en est rien, c'est le salon de manucure.
Donc l'aire d'autoroute a beaucoup de qualités aussi. Mais...
Et j'en ai fréquenté un, alors pas pour mes ongles ni pour mes cuticules, et j'en avais presque fait une sorte de bureau à une époque révolue désormais, et je crois que c'est à partir de ce moment-là où ma fascination pour le vernis à ongles est née, et donc c'était, je m'y connais un petit peu, et quand il s'agissait de lui trouver un trafic interlope, ça m'a paru être une évidence.
Alors, ce qui est étonnant avec ce narrateur-là, dans Magloire, Florent Oiseau, c'est que d'habitude c'est un héros un peu solitaire, ou qui vient de rompre, ou qui était solitaire déjà. Là, c'est un héros traînard installé. C'est-à-dire, il a sa femme, Almeria, qu'il adore, qui laisse faire, qui sait qu'il a cette addiction et qu'il laisse faire, qui accepte d'une certaine manière. Elle n'est pas d'accord, mais elle accepte quand même. Et puis, il a surtout une petite fille qui va lui proposer quelque chose.
C'est vrai qu'en règle générale, comme ils sont livrés à eux-mêmes, les enjeux sont assez moindres. Là, ça me semblait important de le faire évoluer dans un foyer. Et alors, un foyer qui, certes, petit à petit, est fragilisé par ses addictions, donc l'alcool et la nuit, qui en est une aussi. Et je voulais raconter un foyer qui est quand même soudé. Et ce foyer est soudé malgré le drame qui plane en permanence au-dessus de leur famille, jusqu'à ce jour où sa fille lui apprend qu'il est choisi pour incarner une fée dans le spectacle de fin d'année de l'école. Lui ne s'en souvient pas, mais il a visiblement donné son accord dans le carnet de correspondance, encore embrumé de la veille au petit matin. Et donc il va essayer de trouver enfin un rôle à sa mesure.
Ah oui, parce qu'il essaye de refuser, mais c'était compliqué de refuser un rôle de fée à une petite fille de 10 ans comme ça à l'école. Et donc il y va, il bosse un peu, hein, parce qu'il faut apprendre du texte et tout ça. Bon, alors il loupe les répétitions quand il y en a, mais quand même, il y va, il apprend, il essaye, quoi.
Ouais, il n'a pas envie d'être une fée manichéenne, il n'a pas envie d'être une passeuse de plats au service de la pièce, et donc il y met une espèce d'énergie improbable et absurde, parce que tout son métier de père, il le rate. Et là, il a probablement l'impression que s'il est une fée convaincante pendant le spectacle de l'école, tout sera lavé, tout sera nettoyé.
En fait, vos héros sont souvent des misanthropes, mais ils sont souvent sauvés par les autres quand même. La dernière fois, c'était aussi un type dans le même genre, mais qui avançait parce qu'il voulait écrire un grand roman pour récupérer sa copine qui l'avait quittée. Pareil, c'était son moteur, c'était quand même les autres. Là encore, c'est le cas, c'est souvent le cas. Ça les sauve quand même. C'est pas juste des solitaires qui sont dans leur coin en train de picoler.
Non, et puis en règle générale, mon personnage principal m'intéresse assez peu. C'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à leur trouver de prénoms. D'ailleurs, j'envie votre créativité quand il s'agit de trouver des noms aux personnages. Je vous demanderai vos secrets, mais moi, j'en trouve de moins en moins. Je m'amuse pas du tout à les décrire physiquement. En revanche, je m'amuse énormément avec les personnages secondaires. Et bon, j'ai pas envie de faire de la philosophie de comptoir, mais je crois que de soi on en a vite fait le tour. Or les autres sont un perpétuel terre à entreprendre.
Il y a un personnage secondaire justement qui va arriver très vite. C'est dans le cimetière de Charonne, qui est un cimetière de Paris pas du tout touristique. Et il y a un personnage qui est là-bas, qui y reste. Et on va en parler dans un instant. À tout de suite, Florent Oiseau sur Europe 1.
Europe 1.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, Groupama est là. Si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous.
Groupama,
toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prix maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
Je suis ta beauté intérieure. Que souhaites-tu ?
Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco.
Oui.
Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible ?
Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 14 février et exclusivement chez Arkéa.
Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkéa, c'est du sur mesure pour vous. Voir liste des magasins participants sur arkéa.fr.
Et si vous laissiez vos émotions prendre le volant ? DS Automobile présente, numéro 4, DS Performance Line. Laissez-vous séduire par cette nouvelle édition limitée, dotée de détails exclusifs et de nombreux équipements. Disponible à partir de 395 euros par mois sans apport. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. Avec DS, faites le choix de la sérénité grâce à notre garantie premium jusqu'à 8 ans. DS Automobile. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Shiva, spécialiste du ménage à domicile, vous souhaite une très bonne année 2026.
Pour bien commencer l'année, Shiva vous offre une semaine de ménage. Oui, une semaine de ménage. Conditions sur shiva.fr.
Shiva, un éclat de magie dans votre vie. Et profitez toujours de l'avance immédiate du crédit d'impôt. Sous réserve de souscription et selon l'article 199 du Code général des impôts.
Europe 1, 18h-19h, la voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est Livre continue toujours avec Florent Oiseau pour son nouveau roman. On est content. Magloire, c'est chez Gallimard. Et c'est l'histoire d'un type, un traînard, qui picole un peu toute la journée, qui aime ça d'ailleurs, même s'il est en train de se détruire avec cette addiction. Or, il a une femme assez géniale et compréhensive. Et puis, il a une petite fille, surtout, qui lui impose même de jouer dans la pièce de théâtre de l'école. Et lui devra jouer le rôle de la fée, tandis qu'elle jouera le rôle d'un papa, justement. Et bon, ils s'entendent très bien les deux, et ça le sauve un peu. Et souvent, il va se balader, y compris avec elle, dans le cimetière de Charonne, qui est un cimetière parisien, pas du tout touristique, comme Montparnasse ou le Père Lachaise. Et c'est un cimetière dans lequel il y a un personnage étonnant, et qui s'appelle Magloire. Enfin, il y a une statue, un monument, Et en dessous, on peut lire, Florent Oiseau, puisque vous le citez dans ce roman, « Ici repose Bègue dit Magloire, peintre en bâtiment, patriote, poète, philosophe et secrétaire de Monsieur de Robespierre. » Carrément, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Déjà, on dirait mon CV, un peu de choses près. c'est un tout petit cimetière, c'est le plus petit cimetière de Paris et le deuxième plus ancien, je crois. Et il jouxte le Père Lachaise et il y a des... Bon, moi, j'y ai atterri par hasard. Il est derrière l'église de la place Saint-Blaise, donc on le voit. Il faut savoir qu'il est là ou avoir du temps à perdre, ce qui est globalement souvent mon cas. Et il y a tout de suite des espèces de similitudes qui m'ont amusé, c'est-à-dire que le Père Lachaise fait 42 hectares, lui en fait 0,42. Et en effet, dans ce cimetière, il y a une seule statue. D'un homme visiblement satisfait de ses accomplissements ici-bas, ce qui est souvent le cas. Et donc j'ai vu cette épitaphe et je me suis dit, mais ça veut absolument rien dire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc j'ai fait des recherches et je suis allé un peu aux archives, j'ai regardé sur Internet et j'ai découvert que visiblement il s'agit d'un mythomane absolu. Robespierre n'a jamais fait mention de lui nulle part, alors qu'il disait être son secrétaire. Je suis tombé sur des sources qui le citaient comme une sorte de rebouteux, de dandy misérable, et je me suis dit ok, ça c'est pour moi. Et en fouillant encore, j'ai découvert que c'était un type qui, à sa mort, mais je ne vais pas trop en dire, avait organisé une sorte de beuverie géante pour tout le quartier, mais on n'a jamais su comment est-ce qu'il a financé sa tombe et sa sépulture. Quand même assez
là, il a
imposant.
Payé une tournée générale le jour de ses funérailles.
Exactement.
Et donc, lui qui n'était pas connu du tout a été fêté et on a bu beaucoup le jour de ses funérailles en son honneur.
Et donc, quand mon personnage découvre ça, il décide de partir à sa recherche et savoir qui il était vraiment. Et donc, ça devient une espèce de quête. Mais en réalité, qu'il s'agisse de cette enquête absurde ou de ce rôle de fait dans un spectacle de fin d'année ou même de tout ce qui loupe, de tout ce qui rate, de tout ce qui manque parce qu'il sort le soir. Il s'agit en fait, tout s'imbrique parce que c'est les histoires qu'on se raconte en fait pour le quotidien ou pour le jour d'après.
Mentir de son vivant, c'est une chose, écrivez-vous. Fabriquer une fausse légende pour l'après, ça c'est de la poésie et rien d'autre.
Ouais, là, c'est sublime. Et puis ça marche, puisque 230 ans après sa mort, je ne sais plus exactement quand il décède, il se retrouve dans un roman. Donc il a réussi son coup, ce François Bègue.
J'en dis pas trop, parce que je laisse les lecteurs découvrir ce que lui va découvrir avec sa fille sur ce personnage. Mais est-ce que vous racontez sur la découverte, sur ce qu'on sait de ce personnage, tout est vrai ?
Non, vous avez inventé des choses aussi. J'ai pris quelques libertés, mais déjà, je me suis dit bon, je vais faire mon Génada, je vais aller aux archives. J'ai pas découvert grand chose. J'ai quand même vu son avis de décès. J'ai fouillé un peu, puis très vite, je suis allé au bar en face, et c'est comme ça que l'enquête s'est terminée. Donc ensuite, j'ai pris certaines libertés. Je suis vraiment allé dans cette ville de Côte d'Or où il part à sa recherche.
Mon bar,
ouais. Forcément.
Tout se regroupe.
Mais j'ai pris quand même certaines libertés. Ouais.
Mais tant mieux, parce que vous écrivez aussi « L'avantage du mystère réside dans le fait de pouvoir l'habiller de toutes les capes. La vérité est un dictateur. »
Oui, moi je suis souvent déçu quand il y a une résolution. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les livres avec des fins ouvertes. Quand je parle en tant que lecteur, pas en tant qu'auteur. Idem pour les films. J'aime bien... me faire ma propre fin et pouvoir imaginer les destins possibles des personnages.
Alors, le destin de ce héros, c'est donc de devenir une fée. Et il n'a pas de problème justement avec des histoires de virilité, parce qu'il dit « Je me sais attendu sur des réticences liées à la virilité et je ne leur fais pas ce plaisir, j'ai entamé ma déconstruction bien avant que ce soit dans l'air du temps. Je fais des exercices pour muscler mon périnée. Je suis curieux et intuitif, je lis mon horoscope. En bref, la femme en moi n'a pas à s'en faire pour son espace. Au contraire, elle le prend sans rien me demander et je ne suis pas du genre à défendre mon territoire. » Il y avait ce problème de la virilité qu'il fallait évacuer, quoi. Vous avez décidé que ce serait une fée ?
Bien incapable de l'expliquer. Je sais exactement le jour. Je vois l'odeur de l'air ce jour-là. J'ai tout à fait la luminosité en tête. Je vois exactement où je faisais mes courses, mais je varie assez peu. Et je sais que je suis rentré, que j'ai tout de suite vu une sorte de type à la dérive, de héros improbable, pas du tout une sorte de bel âtre. Et j'ai tout de suite vu un type avec un costume de fée. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune explication à donner.
Et ça, ce que j'aime bien aussi dans vos romans, c'est que on ne sait jamais d'où vous parlez vraiment. Vous êtes un peu au milieu ou au contraire à l'extérieur. Et là, par exemple, on voit bien que vous vous moquez à la fois du virilisme, mais aussi des histoires de déconstruction et tout. C'est même pas que vous vous en moquez, c'est que vous mettez les deux un peu comme ça dans un truc, un peu dos à dos.
Je fais ça pour absolument tous les sujets, d'ailleurs.
Vous désamorcez tout, en fait.
Moi, j'en ai rien à secouer et on m'embête pas trop. Et comme effectivement, je sans avoir l'air de trop y toucher, ou comme tout le monde, pareil au niveau des régions, dans mon premier roman, je sais plus, je mettais des cartouches à la Seine-et-Marne et au nord de la France. Ma mère m'a dit, tu vas te faire des ennemis. Et donc, dans chaque livre, il y a une région qui prend une cartouche totalement gratuite et je crois que ça fédère. Et donc, je n'ai pas d'ennemis.
Et le narrateur note des phrases de temps en temps dans un petit carnet. Et par exemple, il note « Le bonheur est un fil d'Ariane sur lequel je fais de la tyrolienne ». On va en parler dans un instant. On va aussi parler de cuisine, parce qu'il y a toujours de la cuisine dans les livres de Florent Oiseau. À tout de suite sur Europe.
Bonjour, c'est Charlotte Dornelas. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1, car chaque voix compte.
Charlotte Dornelas, une signature Europe 1, tous les jeudis à 8h40. Europe
1. La radio libre.
À l'écoute des entreprises avec HP. Collaborer en visioconférence est devenu une norme dans les entreprises. En quoi l'intelligence artificielle change la donne ? Réponse dans un instant avec HP.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, c'est le début, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Vous venez de finir votre série préférée. Après 9 saisons, vous dites au revoir à Dan, Jesse, Sam et Roger. Ils vont laisser un vide dans votre cœur. Alors pour vous consoler, vous commandez votre plat préféré sur Deliveroo.
Ça tombe bien. Avec Amazon Prime, l'abonnement Deliveroo plus argent est offert. Et donc, les frais de livraison aussi. Au moins, ça laissera pas de vide dans votre estomac. Ah, voilà votre Deliveroo.
Là, on est très bien.
Abonnement Deliveroo plus argent avec Amazon Prime. Frais de livraison offerts et avantages soumis à condition. Voir Deliveroo.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Merci à Catherine. Merci à Nicole. André. Mireille. Ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Leclerc, bonjour.
Vous me confirmez la promo sur la brioche à Riz ?
Tout à fait, moins 68% sur la deuxième.
Merci. Allez, aujourd'hui, c'est moi qui régale pour le goûter. Ouais,
faites plaisir à tous les gourmands, car du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de brioches tranchées Harris pépites de chocolat, le deuxième est à moins 68%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
18h-19h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Magloire, le nouveau roman génial de Florent Oiseau. C'est chez Gallimard, c'est une balade de 170 pages. On est bien, on a l'impression d'être au bistrot avec un gars qui nous raconte une histoire. C'est à peu près ça l'idée que vous faites de la littérature finalement, Florent Oiseau.
Ouais, c'est comme ça que je l'appréhende, et c'est comme ça que j'aime aussi la consommer quand je suis de l'autre côté de la barrière. Donc ouais, ça me va très bien comme définition.
Et alors, c'est évidemment émaillé de phrases. De temps en temps, le héros pense à des phrases, comme j'ai cité tout à l'heure, « Le bonheur est un fil d'Ariane sur lequel je fais de la tyrolienne ». Il y a des aphorismes comme ça. Et à la fin, en fait, du roman, on a accès à son carnet. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de phrases qui étaient dans le roman et qu'on retrouve toutes à coller les unes aux autres. Pourquoi vous faites ça dans le roman ? C'est une sorte de...
Bah, déjà, j'ai des tocs et je crois
qu'il y a... Mise en abîme ?
Ouais, je fais toujours des listes. Il y a souvent des listes. À une époque, j'avais un personnage qui s'interrogeait sur les noms de poneys les plus donnés. Donc, il y avait une... Je sais pas si c'est des moments.
Éclair et tout ça.
Je sais pas si c'est des moments du texte où je sais plus trop quoi raconter ou si au contraire, ça fait vraiment partie de mon mode opératoire. Et là, ce que je trouvais important, c'est donc qu'il a son petit carnet et parce qu'il est quand même très, très concerné par la fois par la pièce, par son enquête pour découvrir qui était ce type sur le Magloire. Et je trouvais qu'à la fin, en fait, de parce qu'il y a aussi des citations qu'il ne note pas, mais qu'on découvre à la fin dans le carnet, je trouvais que ça permettait d'avoir tout le fil de l'histoire et de
les aphorismes, on revoit tout le roman d'un seul coup. Ouais, très bonne idée. On parle aussi souvent dans vos romans de cuisine l'air de rien. D'ailleurs, le roman s'ouvre sur une scène improbable, à la fois sensuelle et en train de cuisiner un filet de limande avec du riz et du citron. Ensuite, il sera question de soupe à l'oseille et puis aussi des panzerotti. Qu'est-ce que c'est les panzerotti ? Vous avez l'air d'être un spécialiste.
Non, pas tellement en fait. Mais oui, il y a tout un tas de cuisine. Il mange aussi un plat ivoirien que j'aime beaucoup, qui est le placali sauce graine. À un moment, il erre aussi. Enfin, il y a un flashback qui se passe dans un coin du 10e arrondissement où il y a. C'est un endroit qui existe qui est formidable d'ailleurs, où on peut boire des soupes à n'importe quelle heure de la nuit. Et c'est un tout petit restaurant turc qui existe depuis 1981, je crois, et qui est ouvert de 5h du matin jusqu'à 1h du matin. Donc ça va faire à peu près 20h tous les jours depuis 40 ans. Et sur les panzerotti, je sais même plus. En fait, j'en avais mangé à Vérone, j'avais trouvé ça incroyablement décevant. Et donc je me suis dit, ça, ce sera super à caser dans un livre. C'est une espèce de beignet très gras. Ce serait des
chaussons, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ce serait des... ah mince, le nom m'échappe.
Des empanadas.
Mais... Ouais, ce serait des empanadas qui auraient un peu raté leur vie, je pense.
Mais ça rajoute de la réalité dans vos romans, de mettre un peu de la gastronomie facile.
Ouais, facile. Et puis, je mets aussi des plats qu'on... Je pense que avoir dans un roman à la fois une soupe à l'oseille, une soupe ishkembe, dédicace à mes amis turcs, et un plat kali sauce graines, je pense que c'est pas le cas fréquemment, mais j'ai eu la chance de vivre les 30 premières années de ma vie en Seine-Saint-Denis. Et donc, j'ai goûté un peu à toutes les cuisines du monde et je suis content de pouvoir leur faire une petite dédicace à l'occasion.
C'est aussi un roman sur le couple et la fidélité. Je lis un extrait. « Je ne le vois plus car sa compagnie ne m'apporte rien et qu'il me considère avec la suffisance de ceux qui ne boivent qu'à table. Mais quand je le croisais encore dans une autre ville, il se vantait de sa loyauté envers sa femme. En 15 ans, pas un virage !» C'était sa phrase fétiche. « Comptable dans une boîte à Courbevoie, pavillon à crédit dans le centre-ville de Neuilly-Plaisance, une heure de transport aller, une autre au retour, toujours les deux, même comparses à la cantine, des quadragénaires du même sérail, passionnés par les modèles réduits de sous-marins de l'armée russe et amateurs de vin de Loire. »
Ouais, c'est un ami qui ne voit plus pour des raisons obscures, mais en fait non, pas du tout, parce que la vie a fait en sorte que. Et donc c'est un ami qui se vantait d'être absolument fidèle, et donc c'était son mantra en 15 ans, pas un virage. Bon, lui explique qu'en fait, s'ils sont fidèles tous les deux, c'est parce qu'ils n'ont pas le moyen d'être infidèles. C'est très facile de l'être quand on n'est pas convoité, et c'est à la fois le cas de pas... cet ami et de mon personnage.
Ouais, mais dans le personnage, en fait, lui est infidèle aussi, parce que sa maîtresse, c'est la bouteille, et sa femme accepte, et lui, en échange, il accepte qu'elle aille voir ailleurs des types. Bon, ce sera peut-être plus compliqué que ça, on verra. Mais il y a une réflexion là-dessus, et sur les péripéties dans le couple.
Ouais, il y a un accord tacite, il le dit, elle découche, lui boit, mais il cumule pas les mandats, parce que sinon...
Ouais, mais justement, il fait comme si boire, c'était une péripétie, comme si c'était un truc, une aventure.
Bah, parce qu'en définitive, entre l'infidélité bien ficelée de sa femme et ses excès à lui, Qu'est-ce qui fait le plus de mal au foyer? C'est ce que lui fait, et il a au moins cette lucidité-là, c'est de ne pas lui en tenir rigueur, ou du moins de l'accepter et de taire les ressentiments.
Il y a beaucoup de choses en 170 pages. Il y a l'histoire aussi avec sa fille. Tout est toujours omniprésent. On a l'air de partir à chaque fois sur des thèmes très, très différents et de s'éloigner de ceux dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la statue de Magloire, c'est-à-dire le spectacle de fées, c'est-à-dire les petits trafics. Mais en fait, tout est resserré. Il y a une sorte de canevas quand même qui se crée, très bien tenu, très cohérent. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail sur le texte en lui-même, sur la structure, ou est-ce que c'est écrit au fur et à mesure, et vous rattrapez à chaque fois les éléments comme un jongleur?
Sur le texte, je suis un obsessionnel, c'est-à-dire que c'est énormément de travail sur chaque phrase. Par contre, sur la structure, en règle générale, d'ailleurs, on me le reproche assez, qu'il ne se passe rien dans mes livres. Et là, pour une fois, il se passe quand même pas mal de choses et tout s'imbrique. Et pour être très honnête, c'est uniquement lié à la chance. C'est-à-dire qu'à un moment, à chaque fois, je me suis dit, si j'attrape cette branche-là, je vais m'y retrouver, ça va être top. Donc là, c'est chouette parce que il y a rien de gratuit, ce qui est parfois le cas dans mes romans. Et chaque histoire sert la suivante ou la précédente, mais c'est plutôt lié à la chance, parce que comme d'habitude, je suis parti sans plan, ce qui est le cas dans ma vie en règle générale d'ailleurs.
Alors, vous n'avez pas ce genre de vanité, mais quand même, vous venez d'arriver à la collection blanche de Gallimard, très prestigieuse. Qu'est-ce que ça vous fait?
Oui, je sais que c'est évidemment une forme de reconnaissance, ce sera très joli dans la bibliothèque de mes parents. Je ressens de la fierté, mais en fait, ça s'est fait très naturellement. Mon précédent éditeur, que j'aime beaucoup, j'avais décidé de partir parce que j'ai eu l'impression que j'étais à un moment où il fallait que j'essaye autre chose, mais j'avais été appelé par personne, parce que dans le milieu littéraire, j'existe assez peu, je le fréquente assez peu, donc je croule pas sous les sollicitations. Et une éditrice illuminée est venue me trouver quelques mois après. J'avais commencé à écrire un roman.
Charlotte Van Essen.
Exactement. Et j'ai tout aimé de ce qu'elle m'a dit de son rapport au livre, aux auteurs, aux gens. Et il s'avère qu'elle est éditrice chez Gallimard, mais je crois que je serais parti avec elle.
C'était pas la question.
Peu importe l'éditeur. Ouais.
Magloire, donc, c'est chez Gallimard. Et c'est signé Florent Oiseau. Merci beaucoup, Florent
Merci,
Oiseau.
Merci, Nicolas Caron.
Dans un instant, visite de bibliothèque, nous partons chez l'écrivain Gilles Marchand.
On de la traconte.
Le podcast criminel le plus écouté de France.
Je vais vous raconter une histoire mythique.
Crime, passion, faits divers.
Chaque jour, découvrez ou redécouvrez une histoire qui vous révèle les tréfonds de l'âme humaine.
Ça n'est pas un accident de chasse. Quatre cartouches, c'est une exécution.
On de la traconte. À écouter en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trosse, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
À l'écoute des entreprises avec HP. Collaborer en visioconférence est devenu une norme dans les entreprises. En quoi l'intelligence artificielle change la donne? Réponse dans un instant avec HP.
Articulé! Je vous l'ai déjà dit sur scène, articulé!
Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais bon...
Taisez-vous, arrogant, écoutez-moi. Jacquelin, découvrez le plus grand choix, le Pergola, pour un confort maximal. Pergola bioclimatique. Toits ouvrant aux lames orientales. Et voilà.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Europe 1, 18h-19h, la voix est libre.
Nicolas Caro.
Gilles Marchand est un romancier super, je vous en ai déjà parlé. Il est venu dans l'émission déjà, Le Soldat désaccordé, Les Promesses orphelines, c'est lui. Voilà qu'il publie une bande dessinée, Nos accords imparfaits, c'est chez Casterman, l'histoire d'Anton et Hélène, un couple. Il est livreur, elle est violoncelliste, ils se sont un peu éloignés. Et un jour, il doit livrer un colis à une adresse étrange et la destinataire, c'est Hélène. À découvrir, illustré par Cécile Dupuis. J'étais curieux de voir de quel livre Gilles Marchand se chauffe, c'était l'occasion. Alors j'y suis allé et vous venez avec moi sur Europe 1. Bonjour Gilles Marchand.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. C'est rigolo chez vous, on se croirait un peu dans un sampé. C'est au bout d'une petite rue, une impasse en fait. Et au bout de l'impasse, il y a une société qui fait du
carrelage.
Du carrelage. Ouais. Et à l'ancienne, on a l'impression d'être dans les années 60. Et puis alors, vous avez une petite rue pavée, mais qui a été pavée il y a très très longtemps sans doute.
Oui, on se demande si elle n'a pas été dépavée.
Faut pas venir en talons aiguilles.
Oui, c'est assez étonnant, c'est un mélange, enfin, c'est un peu la campagne à la ville presque, c'est l'impression qu'on a en sortant de la maison. Et puis moi j'aime beaucoup cette entreprise de carrelage parce qu'il y a des livraisons, on a l'impression presque d'être dans un port, il y a des énormes paquets qui viennent de toute l'Europe et des gens qui viennent de partout pour s'approvisionner ici.
Je viens visiter votre bibliothèque, mais j'aime bien regarder les appartements. Et en fait, c'est exactement comme j'imaginais chez vous. C'est-à-dire que c'est très poétique. On entre, il y a une bibliothèque d'entrée. Enfin, d'ailleurs, une bibliothèque dans l'entrée d'entrée. Et ensuite, il y a une bibliothèque dans le salon. Il y a une bibliothèque dans un petit bureau à côté, on va y aller. Mais aussi, on est dans votre petit salon. Il y a une grande bibliothèque, une grande table. Et puis, il y a des guitares et même un banjo. Vous jouez du banjo, dites-nous.
Alors, je joue, c'est un faux banjo. C'est un banjo 6 cordes. C'est pour permettre aux guitaristes de tricher, de donner l'illusion de savoir jouer du banjo.
Mais vous avez une guitare qui fait beaucoup de bruit parce qu'elle a une grande, grosse caisse comme ça. Et puis, vous avez même des percussions. Vous avez des voisins compréhensifs.
Alors, pour le moment, je n'ai jamais eu trop de problèmes avec eux. Je n'ai jamais écouté la musique assez fort en plus. Mais voilà, j'essaie de faire attention. Mais c'est vrai que les percussions, j'évite passer 20 heures, j'évite de trop en jouer.
Alors, les livres sont un peu partout. Mais vous m'avez dit, attention, les bibliothèques sont réparties en fait.
Exactement, parce que c'est deux bibliothèques qui se sont rassemblées et qui en ont formé qu'une, alors qui est disposée en 3-4 endroits. Il y a plusieurs endroits, il y a même un purgatoire qui est un endroit où on met vraiment les livres qu'on sait qu'on va devoir un jour s'en séparer.
Pourquoi ?
Parce qu'on peut pas,
parce qu'on
peut pas
tout garder.
Parce que, alors, moi, déjà, j'ai très peu de mémoire. Donc, parfois, là, je suis tombé parce que j'ai un peu fait la poussière avant votre arrivée sur la bibliothèque. Et je suis retombé sur des livres. Je me suis dit, et 3, 4, 5 auteurs. Donc, je me dis, mais j'ai dû l'adorer pour lire autant de ces livres. Et je vois plus ce que c'est. C'est des livres que j'ai lus il y a 20 ans. Alors, déjà, que j'ai des difficultés pour me souvenir d'un livre que j'ai lu il y a quelques mois. Des livres que j'ai lus il y a 20 ans. Je sais plus du tout ce que c'est. Donc, soit je les relis. Soit je laisse la place à de nouveaux livres.
Et résultat, on se retrouve dans votre chambre. On va passer à la bibliothèque qui est dans le couloir de l'entrée, qui est votre bibliothèque, si j'ai bien compris. Mais là, on est dans votre chambre. Il y a deux centres de livres. Il y en a une grosse bibliothèque à côté de votre lit. Et puis, il y a une plus petite bibliothèque, là, au-dessus d'un petit meuble. Et je vois Histoire du bonheur en France, par exemple.
Oui, ça, ce sont des livres qui m'ont servi pour l'écriture de mes romans. Donc là, il y a essentiellement ce qui m'a servi pour Les Promesses orphelines, donc où la question du bonheur est une question qui revenait. Il y a aussi une histoire des bistrots.
L'aérotrain aussi.
Voilà, il y a la documentation sur l'aérotrain. Et puis après, il y a la partie plus sur la Première Guerre mondiale qui m'a servi pour le Soldat désaccordé, mon roman précédent. Voilà.
C'est une bibliothèque table de chevet, en fait. Bah, en fait, elle est vraiment accolée au côté du lit.
Et elle est faite pour. Enfin, c'est pour ça que la poésie est là. C'est avant de m'endormir, j'aime bien lire un petit poème.
Par exemple, vous lisez quoi en général ?
Ça dépend. Alors, l'avantage de ne pas avoir de mémoire, c'est que je peux relire très souvent.
Vous en connaissez pas par cœur ?
Non, j'ai pas de. Je connais des petits bouts par cœur, mais. Alors, par exemple, je sais pas, il y a Gerasim Luka, mais ça, c'est presque un exercice.
Gerasim Luka, ouais, je connais pas.
Un exercice d'orthophoniste. C'est avec une flûte, c'est avec le fluet de la flûte, que le fou, oui, c'est avec un fou et mou, que le fou foule et affole la mort de La mort de c'est l'eau, c'est l'or, c'est l'ogre, c'est l'orgie des eaux dans la fosse molle où les morts flous flottent dessus comme des flots. Le fou est assoiffé, phosphore qui coule, la peau du feu aux eaux, au flot de la porte, alors que la mort morte et folle n'est que de l'eau, le logis de la faute qui fausse la logique de loup doux, de la forme en forme de mot, en forme de mort, en forme de phosphore mort. Bon, ça continue après, mais...
C'est intraduisible, ça.
Oui, je...
comment on fait, quoi? C'est impossible.
Oui, alors, et en plus, c'est assez marrant parce que dans les... en regardant un petit peu les recueils que je lis, c'est souvent des étrangers, par exemple, j'aime beaucoup Mayakovsky, ou là c'est Brötigan, traduit par Nicolas Richard.
Excellent traducteur.
Et alors là, j'aime bien cette poésie qui est simple et qui est un peu... j'aime bien être déstabilisé quand c'est un peu bancal. Et là, c'est donc Asile de fous, c'est Baudelaire entra dans l'asile, déguisé en psychiatre. Il y resta pendant 2 mois, et quand il partit, l'asile de fous l'aimait tant qu'il le suivit dans toute la Californie. Et Baudelaire rigolait quand l'asile se frottait contre sa jambe comme un chat étrange. Et c'est ça que je trouve assez fascinant avec Brötigan, c'est que il y a déjà cette apparence facilité, il y a ce côté très populaire, et puis il nous amène, on ne sait pas du tout où est-ce qu'il va nous amener, quoi.
Et parfois, il nous emmène nulle part, et nous laisse au milieu du chemin, et débrouillez-vous.
Et débrouillez-vous, et c'est pas mal parfois de se débrouiller avec les mots qu'on nous a laissés.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, on a du classique, on a Giono, Un roi sans divertissement, Edgar Allan Poe, Histoire extraordinaire, du Nerval, du Buzzati, du Roald Dahl. C'est vos classiques, du Bouvier, tiens, Nicolas Bouvier.
Oui,
là, Garcia Marquez.
Ah, Garcia Marquez, ouais, il y a des 100 ans de solitude. Moi, et mon préféré, je crois que c'est L'amour au temps du choléra.
Ah, ouais. Okay. Une histoire incroyable.
Qui est une histoire incroyable, que j'ai relu l'année dernière. Et c'est assez rare que je relise des livres. Il y a 2-3 livres comme ça, trois ou quatre livres que j'ai relus dans ma vie. Il y a des livres que j'ai très envie de relire. Par exemple, Rouge ou mort, qui est dans l'autre pièce, fait partie des livres de David Peace, que j'ai très envie de relire. Mais c'est assez rare parce que on sait qu'il y a tous les ans beaucoup de livres qui sortent.
Et pourquoi vous avez tenu à relire L'amour au temps du choléra?
Parce que ça fait partie des livres que j'ai découvert. Moi, j'ai fait des études d'histoire, et pendant toutes mes études, en quelque sorte, je m'interdisais de lire des romans. Ou alors c'était Homère, c'était des livres qui avaient un rapport avec l'histoire. Il fallait que ça ait un rapport avec l'histoire. Et quand j'ai arrêté mes études, j'ai redécouvert le plaisir de lire des romans grâce à une libraire. Je suis allé la voir et je lui ai dit, voilà, moi ça fait très longtemps que j'ai pas lu, notamment de contemporains. J'avais aucune culture de littérature contemporaine. Et elle m'a donné 5 livres. Je me souviens, il y avait Le Monde selon Garp de Johnny Irving,
que j'ai vu dans l'entrée.
Oui. Mais que j'ai relu, tiens, d'ailleurs, ça fait partie, décidément. Je me contredis, je vais peut-être en trouver plus que 3 ou 4. Voilà, il y avait.
Le Monde selon Garp. Il vient d'être lu parce qu'il est posé. C'est pour ça que je l'ai vu. C'est qu'il est posé à plat sur la bibliothèque.
Exactement.
Comme si vous n'aviez pas encore pris le temps de le ranger.
Oui, et puis je l'ai en grand format parce qu'en fait, vous avez pu le voir, je ne suis pas très, très ordonné dans ma bibliothèque. Je ne le trouvais plus, donc je l'ai repris en poche, quoi. Et avec Malville aussi, Malville, de Robert Merle, ça c'est vraiment
Le Monde selon Garp.
C'est la folie de ce texte, c'est la liberté, c'est se dire que raconter des histoires, on peut le faire avec cette folie, avec cette digression. Moi, j'adore le sens de la digression. Enfin, on a l'impression qu'Irving, il tire un fil et il voit jusqu'où ça peut aller. Et tant que la bobine n'est pas finie, il y va, quoi. Et moi, j'aime bien un peu les livres monstres comme ça.
Tiens, il y a Nick Hornby, vous avez toute la collecte. On en parlait tout à l'heure, Haute Fidélité, l'histoire de ce type qui range ses vinyles et qui aussi visite ses ex pour savoir ce qu'il a merdé.
Exactement. Il adore faire des top 5, donc il commence par le top 5 de ses ruptures les plus douloureuses.
Écrivain britannique assez génial, Nick Hornby. Il était venu dans l'émission d'ailleurs, et vous avez toute la collection. Vous l'avez rencontré?
Je ne l'ai jamais rencontré.
C'est vrai qu'il est très rock.
Mais c'est vrai que quand on le lit, Nick Hornby a été important, moi, même dans ma vie d'écrivain, parce que les premiers textes que j'ai écrits, en fait, c'est un peu comme quand on le lit, il donne une permission. On a l'impression que c'est un pote à nous qui écrit un livre, et on a l'impression qu'on peut le faire aussi. Alors c'est un piège, hein, parce que mes premiers textes, quand j'ai commencé à écrire, je pense que j'étais un peu dans l'imitation, sans l'assumer vraiment. Il a fallu que j'apprenne justement à ne plus me laisser influencer par les gens dont j'avais aimé l'écriture, quoi.
Vous avez un écrivain assez génial aussi, juste en dessous, c'est Will Self.
Ah oui. Ici,
Vive les morts, britannique lui aussi. Alors lui, il écrit des bouquins parfois complètement lunaires et souvent très drôles aussi. Et notamment, il avait écrit L'Évangile selon Dave, je crois.
Ah oui,
ça.
Ouais,
c'était un chauffeur de taxi qui pérorait toute la journée et le soir notait ses impressions, sa vision du monde de bistrot et qui enterre son carnet dans un jardin, si je me souviens bien. Il y a quelqu'un qui le déterre bien des années plus tard, des siècles plus tard, et ça devient l'évangile commun. Vous aimez les idées, vous, les moments à idées, quoi.
Bah quand il y a une clé, quand il y a quelque chose d'assez, quand il y a une folie qui est à l'origine de l'histoire. Moi, je crois que c'est ça surtout qui me plaît, c'est quand il y a quelque chose de fou qui déclenche et qui devient qu'on ne peut plus, qui lance une machine, quoi.
Et Will Self, vous le lisez régulièrement ou suis-je tombé dessus par hasard?
Non, surtout, ouais, vraiment par hasard, parce qu'il est entre Fred Vargas et André Gide, ce qui prouve vraiment que j'ai un souci d'organisation. Ouais.
Quoique vous mettez les.
Oui,
Boris Vian. Écrivains entre eux. Enfin,
j'essaie.
Boris Vian, vous avez toute la collecte.
Ouais, Boris Vian, j'ai.
Ça vous va bien, Boris Vian?
Un bon paquet. Moi, je l'ai beaucoup lu quand je suis arrivé à Paris. Et pour une raison toute bête et bassement économique, c'est qu'il y avait une librairie et je connaissais pas bien la loi du prix unique du livre et je pensais que les livres étaient moins chers, je sais plus par quel miracle. Et donc, je me les achetais en pensant faire une super affaire. Mais après, moi, j'avais lu Boris Vian, mais je crois, et plus ça va, plus je préfère sa poésie. J'adore Je voudrais pas crever, notamment. Plus que ses romans, finalement.
Vous nous liriez un extrait de Je voudrais pas crever, peut-être pas tout, mais.
Oui, parce qu'il est assez long. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à queue nue dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre.
Magnifique. J'ai trouvé, pendant que vous lisiez, un livre d'Emmanuel Carrère, qui est le livre d'Emmanuel Carrère d'avant le Emmanuel Carrère de la réalité, du réel, etc., qui est formidable aussi. Mais moi, j'avais beaucoup aimé La Moustache.
Bah, La Moustache, je parlais d'éléments extraordinaires qui déclenchent l'histoire. Voilà. Là, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est l'histoire de ce gars qui se rase la moustache. Il a rendez-vous.
Il
est tout content de lui. Il se dit, ça va être l'événement. Enfin, mes amis vont dire, oh, tu t'es rasé la moustache.
Parce que sa femme a toujours eu la moustache.
Sauf que sa femme ne lui dit rien. Et lui, il se dit, ok, elle fait semblant, elle va voir jusqu'où ça va nous mener, etc., etc. Mais il se passe rien et ça l'entraîne dans une espèce de psychose. Ils vont chez des amis qui, pareil, personne ne lui fait la réflexion sur la moustache. Et quand au bout d'un moment, il craque, il dit, c'est bon, je me suis rasé la moustache et vous ne dites rien. Et il dit, mais t'as jamais eu la moustache, pourquoi tu nous racontes cette histoire? Voilà. Et ça, l'histoire commence comme ça. Ouais. Je trouve que c'est un super début. Hein.
Très bon point de départ. On parlait tout à l'heure du traducteur Nicolas Richard.
Ah oui.
Il a traduit un livre assez extraordinaire du point de vue de la traduction.
Et intraduisible.
Intraduisible, qui s'appelle Enig Marcheur en français, Enig Walker en anglais, Russell Hoban, écrivain culte en Grande-Bretagne dans les années 70-80, et qui refusait que son livre soit traduit pour une raison simple, c'est que c'est l'histoire d'un gamin après une sorte d'apocalypse, un gamin qui devient le nouveau premier écrivain du monde. Il a 12-13 ans et il réinvente un langage, donc c'est pas vraiment de l'anglais, c'est très bizarre, ça s'appelle le Riddle Speak. D'ailleurs, il y a des clubs en Angleterre de gens qui parlent le Riddle Speak. Et en 2011, Russell Hoban est mort et on a eu le droit de traduire, et c'est devenu Enig Marcheur par Nicolas Richard, qui a dû traduire du faux anglais en faux français.
Exactement. Alors là, je trouve qu'à la lecture, à la lecture à voix haute, c'est moins intéressant. Il faut vraiment le lire et se pencher dessus. En plus, c'est édité chez Monsieur Toussaint Louverture, qui fait toujours des très beaux livres. Et il faut vraiment le lire, parce qu'à voix haute, on ne voit pas toute la subtilité, toute l'étrangeté du texte. Parce que finalement, à voix haute, ça ressemble à notre langue. Quoi.
Ouais, ça commence comme ça. Le jour de mon hommage, mais hommage c'est N-O-2-M-A-G-E. Le jour de mon hommage pour mes 12 ans, je suis passé Lens avant et j'ai est aussi un cinglier. Il a été probable le dernier cinglier du Baluchon. Enfin bref, ouais, c'est vrai que c'est compliqué de faire passer cette idée, mais lisez Ennemi Marcheur.
C'est assez dingue de déconstruire comme ça une langue et de la reconstruire de manière un peu bizarre, un peu bancale. C'est un côté très, très jouissif à lire ça.
Et à côté, vous avez un livre de Ken Kesey, et quelquefois j'ai comme une grande idée, Ken Kesey, qui est l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Ouais,
on rejoint encore la folie, comme ça, de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il y a eu le film aussi, donc ça se passe dans un hôpital psychiatrique. C'est un livre terrible et assez génial. Ça vous touche aussi?
Ouais, moi ça me... Et quelquefois j'ai comme une grande idée, ça fait partie pour moi des grands livres de ces dernières années, parce que justement, dans la narration, il nous entraîne à des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. Enfin, vraiment, on sort de sa, enfin, je sais pas si j'aime tellement l'expression zone de confort, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de dire, j'avais jamais lu un livre comme ça.
Merci beaucoup, Gilles Marchand. À bientôt.
Merci beaucoup.
Gilles Marchand, et je rappelle sa bande dessinée Nos Accords Imparfaits, c'est chez Casterman, dessin de Cécile Dupuis. Dans un instant, encore des livres avec les chroniqueurs de l'émission Libraire, Littérature Jeunesse et Bande Dessinée à suivre. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Écoutez, c'est la grande famille d'Europe 1.
J'écoute Europe 1, je suis un fidèle auditeur, je dis ça depuis ma tendre enfance en fait.
Quel plaisir pour moi de vous parler, moi qui vous suis tous les jours.
Je vous écoute tous les jours, c'est de la bonne humeur, je ris en voiture en vous écoutant quand je rentre du travail et j'ai vraiment passé un bon moment.
Soyez solidaires les uns des autres, aidez-vous toujours dans la vie.
Europe 1.
Ouais, c'est un plaisir de vous avoir et vraiment ça fait chaud au cœur.
La radio libre.
Vous sortez du yoga, vous avez fait le cobra. Le chien tête en bas, l'aigle qui pleure, et il fait presque beau. Là, on est détendu. Trop détendu pour aller au supermarché? Alors vous commandez sur Deliveroo vos courses et produits frais, livrés chez vous en quelques minutes. Et namasté.
Tiens, c'est votre Deliveroo. Ah, là, on est bien.
Les délais de livraison peuvent varier. Service selon disponibilité géographique et soumise à conditions. Frais applicables, voire sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous vouliez me voir, François ?
Oui, Cerise. Vous savez, j'ai des projets d'avenir et j'aimerais mettre de l'argent de côté. Mais chez Groupama, c'est pas vraiment votre cœur de métier.
Détrompez-vous. Si on sait assurer votre auto ou votre domicile, nos conseillers vous proposent aussi des solutions d'épargne adaptées à vos projets.
Ah vraiment, Cerise ?
Oui. En plus, en ce moment, jusqu'à 200 euros sont offerts pour toute souscription d'un contrat d'assurance vie.
Groupama.
Groupama. Toujours là pour moi.
Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test?
Attendez. Maman, t'as fait du poisson?
Test concluant, impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 paquets de Colin d'Alaska extra croustillant surgelé Findus, le troisième est offert.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Et si vous laissiez vos émotions prendre le volant? DS Automobile présente DS3, DS Performance Line. Laissez-vous séduire par cette nouvelle édition limitée, dotée de détails exclusifs et de nombreux équipements. Disponible à partir de 355€ par mois sans apport. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. Avec DS, faites le choix de la sérénité grâce à notre garantie premium jusqu'à 8 ans. DS Automobile. Pensez à covoiturer.
18h-19h, la voie est libre.
Nicolas Carreau.
Lu et approuvé, le kiosque des chroniqueurs de La Voix et Livre avec notre libraire du soir, le grand Thibaut Raden, librairie L'Écriture, c'est à Vaucresson, magnifique librairie, La Pimpante, Héloïse Goy, littérature jeunesse, et le facétieux Sébastien Bordenave pour la bande dessinée. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Salut Nicolas, bonsoir à tous. Nicolas.
Honneur aux libraires, comme toujours, de quoi nous parlez-vous Thibaut?
Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de la nouveauté des éditions du Penseur.
Ah, c'est vos chouchous, ça.
Absolument, absolument. Et là, premier roman, une nouvelle fois encore, de Elsa Régis, Un abri pour Lampedusa, ça s'appelle. Un abri pour Lampedusa, c'est l'histoire d'un architecte romain qui, au détour de quelques balades et quelques cafés et ou alcool dans un bar, rencontre un type qui est écrivain, qui s'appelle l'écrivain, et qui a un jour écrit une histoire de ces migrants qu'il faisait passer dans son taxi, parce qu'il était taxi avant d'être écrivain. Et donc, comme on parle de Lampedusa et qu'on parle d'un abri à Lampedusa, on va s'y retrouver. Il va y avoir cet abri, non pas construit par cet architecte, mais en tout cas observé par cet architecte. Il n'y a pas de... Ce qui est superbe dans ce bouquin, c'est que il n'y a pas de point de vue. On n'est pas là pour parler de quelque chose de terrible, mais il y a énormément d'élégance, en fait. Il y a un sujet qui est celui qu'on connaît, qui est gravissime, qui n'est peut-être pas... On ne peut pas le résoudre tout de suite comme ça, mais le regard de l'architecte, donc, qui construit un abri pour des gens qui, en plus de ça, au départ du livre, construit une villa, ce qui est un peu fou quand on imagine cette histoire. En fait, c'est un mec qui marche, c'est un espèce de Rousseau qui observe les choses et qui observe les gens quand il a l'habitude de construire des choses qui ne sont pas vivantes, et qui, au travers de son regard, va rencontrer d'autres gens, et au travers du regard de l'écrivain, va rencontrer finalement les gens. Il va apprendre à ce que c'est qu'un être humain. Et quand je dis qu'il y a beaucoup d'élégance, c'est que l'écriture de Elsa Régis, elle est toute en finesse. C'est très subtil. Quand il y a une émotion forte, elle n'en fait pas des caisses, elle fait exactement ce qu'il faut. Donc il y a vraiment un truc qui est de l'idée de la mer qui arrive, qui flotte, qui est très belle. Et quand on rencontre ces migrants, eh ben, elle continue dans cette écriture. Il y a quelque chose de vraiment... C'est un très beau texte. Je pense que si elle continue comme ça, Elsa Régis, elle pourra faire des choses encore plus belles. Mais ben, premier roman, vraiment, chapeau. C'est très, très réussi.
Ça s'appelle...
Un abri pour Lampedusa.
Et c'est aux éditions du Penseur, P-A-N-S-E-U-E.
Pense les mots.
Et voilà, absolument. Merci Thibaut Raden. Héloïse Goua, littérature jeunesse.
Je vous présente un album qui m'a fait rire toute seule comme une enfant, le casting de Gilles Bachelet. Alors Gilles Bachelet, c'est l'auteur du Chat le plus bête du monde ou du Chevalier de ventre à terre. C'est un peu le maître de l'album jeunesse drôle et décalé. En tout cas, moi j'aime à peu près tout ce qu'il fait. Et cette fois, il est à la recherche du héros de son prochain livre. Alors naturellement, il décide de faire passer un casting à toute une galerie de personnages. Et pour ça, il est aidé des personnages de ses précédents livres qui travaillent désormais pour l'auteur à temps plein, c'est bien normal. Et alors parmi mes candidats préférés au casting, il y a par exemple un T-Rex qui a un trou dans son CV à cause de son congé sabbatique de quelques 66 millions d'années. Bah oui. J'aime beaucoup également le crapaud qui regrette de n'être embauché pour des rôles de prince qu'avant la scène du baiser, le pauvre. Il y a aussi le singe nazique. Vous savez, ce singe avec un énorme nez qui pendouille. Et bah lui, il n'est pas jugé très convaincant dans son interprétation de Cyrano de Bergerac. Pourtant, il a le physique pour. Il y a encore le paresseux qui n'est pas pris malgré son profil intéressant. Bah, faut dire que le problème, c'est qu'il demande des pauses de 58 minutes toutes les heures. Alors, ce qui est formidable, c'est que l'humour de Bachelet fonctionne à tous les âges. Les enfants se régaleront des situations absurdes, des animaux qui débordent de la page et des gags visuels. Et les adultes, eux, repèrent les clins d'œil au monde du cinéma, à Scarlett O'Hara, aux égos débordants des acteurs, aux techniques de manipulation des candidats pour qui tous les coups sont permis. C'est vraiment très fin, très joyeux, avec ce style graphique précis et malicieusement détaillé qui fait la signature de l'auteur. Allez regarder ses dessins, je suis sûre que vous les connaissez. Bref, un album inventif, généreux, qui ne peut que vous faire du bien. Le casting de Gilles Bachelet, c'est au Seuil Jeunesse.
Merci Héloïse Goua et Sébastien Bordenave, vous avez bien deux petites bandes dessinées.
Oh oui, régulièrement dans La Voix et Livre, le plus souvent possible. Bah, dès que je peux, je loue les mérites et le talent de Osamu Tezuka. J'en parle parce que bah, c'est un peu le Walt Disney japonais. D'ailleurs, allez au musée Guimet, c'est jusqu'au 9 mars. Il y a une expo qui s'appelle Manga Tout un Art, pour ceux qui adorent le genre, comme ceux qui sont curieux, qui ont envie de tout savoir sur cet art narratif japonais. Donc Osamu Tezuka, gloire à l'éditeur Delcourt Tonkam, qui fait découvrir, redécouvrir les plus belles œuvres du maître qui nous a quittés en 89 à 60 ans, vient de sortir donc Princesse Saphir. Mine de rien, Osamu Tezuka, il a inventé le shoujo manga.
Alors,
Et ben c'est plutôt un manga pour les filles, si tant est qu'on puisse
considérer. Mais il y avait un dessin animé, Princesse Saphir.
Ben, exactement.
Pardon, je vous ai coupé.
C'est un peu la grand-mère de Candy, de Lady Oscar.
Voilà, c'est ça.
C'est de la BD avec des personnages qui ont des grands yeux, avec plein d'étoiles dedans. Mine de rien, Princesse Saphir, c'est l'histoire d'un ange qui doit mettre des cœurs à des enfants dans les nuages. Alors s'il est bleu, l'enfant descend sur terre en tant que garçon, et s'il est rose, c'est une fille. Et puis il y a un ange taquin, il va mettre deux cœurs, un cœur bleu, un cœur rose. Vous imaginez, en plus l'enfant c'est celui d'un roi et il veut forcément que ça soit un fils s'il veut régner. Donc voilà, Tezuka il dessine ça quand même en 1953. Quand je dis que c'est un pionnier, je ne mens pas. Ça s'appelle Princesse Saphir chez Delcourt Tonkam.
Princesse Saphir, tu te fais passer pour un garçon, etc. C'est ça le générique.
Ah,
je n'ai pas connu Héloïse, vous n'avez pas connu.
Bah non,
une
je
nouvelle
pense pas.
Club de Nicolas Caron.
Une deuxième petite bande dessinée ?
Oui, elle se déroule au XIIe siècle, au moment des croisades, la ville de Bethunia. Ces jeux de mots, eh ben non, elle existe vraiment, cette ville, elle est à 14 km de Jérusalem. Cette ville, elle a été envahie durant son histoire par les Égyptiens, les Grecs, les Byzantins, les Romains, les Croisés. Eh ben, il y a Séraphine, qui est forgeronne, qui en a marre, elle est du village. Elle va constituer une bande de 7 mercenaires, leur faire une armure sur mesure. Dans les mercenaires, il y a un Turc, un Templier, une nonne nubienne, une bûcheronne teutonne, un chevalier d'Aliénor. Bref, tout le monde a sa religion, à sa
Thibaut,
civilisation.
À Kies, là. Ah ouais.
Et donc, c'est un bouillonnement d'humour pas politiquement correct et c'est historique. C'est un peu dessiné à la Kill Bill. L'histoire
beaux,
rappelle les 7 mercenaires. Hein. Mm. Nightclub,
c'est chez Nightclub, comme un chevalier.
Si nous rendons hommage à Kurosawa, les 7 samouraïs. Quand
exactement.
Même.
Là, c'est édité chez Dupuis. C'est de Arthur Depin, une valeur sûre de la BD depuis très quelques bon. Temps. Nightclub, c'est en 2 tomes. Et bah, franchement, le 1 est drôlement bien.
Voilà. Ah bah vous avez eu un petit dessin en plus oui. pour la dédicace. Bravo ouais. Sébastien Bordona. Vous nous rappelez, c'était Princesse Saphir et donc Night Club. Héloïse Gouin, vous nous rappelez ?
Le casting de Gilles Bachelet au Seuil Jeunesse.
Et Thibaut Raden ?
Un abri pour Lampedusa de Elsa Régis.
Merci. Édition du Penseur. Merci beaucoup. Une petite citation pour terminer, Sébastien ?
Oui, 5 fruits et légumes par jour, c'est supportable si on compte les fruits de mer. C'était le chat de Gueulec.
C'est vrai. Merci à tous les trois. C'était le dernier chapitre de La Voix est libre.